Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission Une heure en Palestine, programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est BDS Provence qui anime l'émission et je suis Vincent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre page Facebook BDS Provence ou le site de l'association AMI www.assopalestine13.org. Merci à Sidi qui assure la technique. Le président brésilien Lula est un des seuls présidents en exercice à avoir officiellement qualifié d'incompréhensible la proposition de son homologue américain Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza, estimant que ce sont les Palestiniens qui doivent veiller sur de Gaza, ce sont les Palestiniens qui ont besoin d'une réparation pour tout ce qui a été détruit afin qu'ils puissent reconstruire leurs maisons, leurs hôpitaux, leurs écoles et vivre dans la dignité et le respect, a-t-il affirmé lors d'une interview avec les radios brésiliennes. Pendant qu'en France ou à la présidence de l'Union européenne, personne ne se bouscule pour faire une déclaration similaire à celle de Lula, dénonçant les propos stupides et mortifères du président US, plutôt de la surenchère comme sur France Info Télé, lorsque Julien Benedetto, journaliste du service public, évoque lors de son émission L'heure américaine cette question avec comme seul invité le responsable d'un syndicat hôtelier pour le questionner sur la faisabilité d'une Côte d'Azur à Gaza. Une honte apparemment assumée par la direction de cette chaîne. Nous allons entendre ça dans un enregistrement du youtubeur Clément Viktorovitch intitulé « France Info, la séquence de la honte ». Ensuite, nous entendrons, reçu par Blast, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International. Elle commentera pour nous le rapport annuel de l'ONG britannique sur la Palestine. Une autre information inquiétante, mais pas directement liée à la question palestinienne, nous alarme et nous renseignant par l'agence Transparency International qui classe les montées de la corruption au niveau mondial. Elle constate que la France, ou plutôt en France, une dégradation alarmante et inédite qui perd 5 places, tombant à la 25e position, 10 rangs derrière l'Allemagne. Cette baisse sans précédent depuis la création de l'indice en 1995 met en lumière des failles structurelles dans la lutte contre la corruption, aggravées par des scandales récents et une perte de confiance dans les institutions démocratiques, souligne Transparency International, qui évoque une alerte démocratique inédite. La perception de la corruption en France découle en partie du sentiment de défiance à l'égard du personnel politique qui semble s'être amplifié durant l'année 2024, analyse l'ONG. Voilà de quoi inquiéter quand les réactions européennes à la volonté de Trump de vider Gaza pour en faire une Côte d'Azur sont somptueusement atone. Le droit international piétiné a alerté même Macron et il s'est fendu d'une intervention sans suite en intitulant cette séquence de Nouvelle Internationale réactionnaire. Ah oui, j'allais oublier, Donald Trump a interdit que des visas soient délivrés pour entrer aux États-Unis aux membres de la CPI. Le droit international semble dire Donald Trump, c'est moi. Voilà ce qui n'est pas banal. Écoutons Clément Viktorovitch dans France Info, la séquence de la honte.
On va parler de cette séquence absolument lunaire et qui, et je le dis en le déplorant, hein, et qui a eu lieu, mesdames, messieurs, sur France Info. Ils sont en train de commenter ce qui se passe aux États-Unis et notamment, ils sont en train de commenter ce qui se passe autour de Gaza. Je vous laisse simplement déjà apprécier le bandeau. Gaza, Côte d'Azur, 2 points, et si c'était possible. France Info ? C'est bon ? On vous dérange pas, là ? Genre, on va vraiment l'envisager ? On va se dire que c'est peut-être une bonne idée ? On va pas s'arrêter sur le fait que c'est une violation absolue de tous les principes du droit international, mais alors tous, hein ? Le déplacement massif et forcé de population, c'est un crime de guerre ? C'est un crime contre l'humanité ? Le fait de nier le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est une infraction du principe le plus élémentaire du droit international ? Mais vous, vous vous demandez si quand même on pourrait pas le faire ? Là, ça n'est que le début. On va passer la séquence, hein, tant pis. Hein.
Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect politique de cette proposition de Donald Trump. On va laisser la politique de côté pour un instant.
On va laisser la politique de côté, genre non, enfin de grâce, non. Donald Trump veut coloniser la bande de Gaza et procéder au déplacement massif des 2 millions de Palestiniennes et Palestiniens qui y vivent. On va pas laisser la politique de côté, non, on va pas faire ça, hein, vraiment, à aucun moment.
On va accueillir Franck Delvaux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France.
Ils ont invité un hôtelier. Ils ont invité un hôtelier, un professionnel du tourisme, pour se demander si ce serait pas une bonne idée quand même de faire Gaza en Côte d'Azur. Ils ont invité un putain d'hôtelier. Je laisse dérouler.
On a voulu vous inviter ce soir parce qu'on a envie de voir si cette proposition de Trump, elle a vraiment vocation à exister.
Il sait même pas comment finir sa phrase parce que là il est en train de se rendre compte, il se dit mais ce serait pas dégueulasse ce que je suis en train de faire. Est-ce que cette proposition de Trump elle a vocation à exister? Mais à quel moment tu demandes ça à un hôtelier?
Sur le plan économique, on a beaucoup dit
Ouais, sur le plan économique, hein, genre non mais on a beaucoup dit oui, politiquement, en termes de droit international, bon, flemme, mais économiquement, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est viable? C'est ça qu'on se demande. Alors, c'est une règle en rhétorique et en négociation, sachez-le. Le moment où tu discutes des modalités, c'est que tu acceptes le principe. Si on vous propose dans une négociation une solution que vous refusez, mais alors absolument. Tiens, vous avez votre patron qui vous dit que vous allez passer à 100% en télétravail. Alors là, vous voyez la douille venir. Vous vous dites, ok, derrière, c'est l'opportunité de me faire travailler encore plus longtemps parce que je serai corvéable à merci. Vous voyez la douille venir. Vous vous dites, non, hors de question, je refuse le 100% en télétravail, c'est important pour moi d'avoir un ancrage dans la société. Si là, votre patron commence à vous dire, non mais d'accord, on a compris que tu voulais pas, mais est-ce qu'on pourrait au moins réfléchir aux modalités que ça pourrait prendre? Est-ce qu'on pourrait imaginer que la société prenne en charge tes frais internet? Quand tu commences à discuter des modalités, c'est que tu acceptes le principe. À partir du moment où tu discutes des modalités, l'autre en face va rentrer en fait dans la négociation, il va travailler à conclure un accord, et au moment où l'accord sera conclu, et où il dira, bon bah voilà, alors dans ces conditions-là, t'acceptes, et là vous allez vous sentir obligé de dire, bah ouais, d'accord, bon, voyez. Et c'est aussi une règle en rhétorique, c'est-à-dire que si tu amènes l'autre à discuter des modalités, c'est que tu es en train de faire accepter le principe. Ce que fait France Info, c'est ultra grave, tout seul comme des grands. En acceptant de discuter sur le plateau des modalités que pourrait prendre la colonisation de Gaza, en fait, ils sont déjà en train d'en accepter le principe. Ou pire, ils sont déjà en train de nous en faire accepter le principe. Tant que la discussion, ça reste, est-ce que c'est acceptable ou inacceptable? Les auditeurs et les auditrices se posent cette question-là. Est-ce que c'est acceptable ou non? Ils ont des arguments, ils les entendent. Bon. Mais dès lors que la discussion, ça devient, quelle forme ça pourrait prendre? Est-ce que ce serait viable économiquement? Il y a, en fait, derrière un présupposé qui est posé, mais qui n'est plus explicite. Et le présupposé posé, mais qui n'est plus explicite, c'est que c'est acceptable. Donc là, France Info est en train de faire un travail rhétorique tout à fait majeur pour faire accepter à ses auditeurs et ses auditrices le principe même d'une colonisation de Gaza, et c'est très grave. France Info est en train, tranquillement, de légitimer le principe d'une colonisation de Gaza et d'un crime contre l'humanité. Alors, je veux même pas savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est l'incompétence, mais alors absolue, du chef d'édition ou du présentateur, je sais pas qui a fait l'édito? Est-ce que c'est un mec qui était épuisé, qu'il fallait meubler des heures, et à court d'idées, ils ont fini par avoir celle-là, mais ça ne justifie rien? Ou est-ce que c'est un travail conscient? On peut pas complètement l'exclure, mais dans tous les cas, ce que fait ici France Info, c'est gravissime. On écoute la suite.
La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit.
Mais alors déjà, on peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça vous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme.
C'est quel genre d'être humain, ce mec-là? Par ailleurs, c'est quel genre d'être humain? C'est-à-dire qu'il est invité sur le plateau pour parler de la colonisation de la bande de Gaza, du déplacement forcé de 2 millions de personnes, et lui, il en profite pour faire sa pub, pour faire la pub de la France, du tourisme en France et en Île-de-France. Mais c'est quel genre d'être humain ? Enfin, genre, mais dans quel monde on vit, en fait ? À quel moment tu te rends pas compte que t'es en train de parler du déplacement forcé de 2 millions de personnes ? À quel moment tu te rends pas compte que t'es en train de parler de ce qui serait un drame, une catastrophe, mais absolue pour les Palestiniens et les Palestiniennes ? À quel moment tu te rends pas compte que t'es en train de parler d'une proposition faite par un dirigeant américain qui est en train de devenir un dictateur, qui par ailleurs, au moment où ce gars-là parle, est en train de mener un coup d'État sur l'appareil d'État américain avec son loyal lieutenant Elon Musk, et un type qui, tranquille, te parle de faire commettre par l'armée américaine un crime contre l'humanité. Mais à quel moment tu n'as tellement pas d'humanité que tu commences par faire la pub de ton petit commerce ? Bon, on va l'écouter, Franck Delvaux, puisque ça a l'air d'être un sacré énergumène, pour pas dire autre chose.
Avant que Gaza demain devienne peut-être une French Riviera, ou bon, il va y avoir quand même un peu de travail. Et puis surtout, c'est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nous, les touristes, dès qu'il y a la moindre chose, on l'a vu à Paris au moment où, rappelez-vous, quelques années, la grève des poubelles, tout de suite, c'est des annulations. Donc Gaza, pourquoi pas, mais ce sera pas tout de suite, parce qu'il faut les infrastructures. Il faut que les gens puissent y aller, qu'il y ait un aéroport.
Normalement, je m'arrête pas là-dessus, mais en plus, il est même pas capable de prononcer le mot aéroport. Gaza, French Riviera, pourquoi pas, hein, lui, ça le dérange pas. Ouais, bah pourquoi pas, bah, si on peut aller construire un petit hôtel ou deux là-bas, et puis qu'il y a les infrastructures et un bon aéroport, pourquoi pas, hein.
Il faut également du personnel qui soit formé. Et puis surtout,
ça c'est le problème, parce que si t'expulses tous les pauvres, hein, si t'expulses tous les Palestiniens et les Palestiniens, et que tu n'as plus sur place que des riches, je sais pas qui on va faire travailler du coup. Ça c'est le problème. Hein.
Je vous ai dit, vous voyez le nombre d'hôtels qu'il y a à Paris, qu'il y a en Île-de-France. Mmh. Donc si on veut accueillir beaucoup de touristes, de nombreux touristes dans la qualité, il y a quand même beaucoup de travail.
70% des bâtiments détruits dans la bande de Gaza.
Voilà, et ça, personne s'arrête pour trouver que c'est un drame. On va finir le dossier, parce que c'est pas le seul élément du dossier. Donc l'UMIH, c'est-à-dire le lobby des hôteliers, hein, qui était représenté en plateau, eux, ils se sont quand même sentis un peu mal. Hein. L'UMIH national n'a pas été informé de cette demande et ne cautionne aucun des propos tenus par le président du département interrogé en plateau. Si nous avions été sollicités par France Info, nous n'aurions pas répondu positivement. Eux, ils sentent que c'est pas bon, hein. Ils se rendent compte que quand même, peut-être que en termes de décence, tout ça, on n'y était pas. Et puis alors, tu as le SNJ de France TV qui ont publié ce communiqué. Gaza plage sur France Info, l'inexcusable à l'antenne, très inspiré apparemment par les propos du président Trump, l'heure américaine a été transformée en horreur américaine. Nous sommes ici au-delà du réel et à mille lieues du journalisme. Dire que ce serait une erreur serait déjà un début d'excuse, alors que c'est inexcusable, intolérable. Ce n'est pas à nous de fixer le degré de sanction ni de dire qui est responsable. À force de vouloir faire du remplissage par des débats, faute de moyens, on en arrive à parler de tout n'importe comment, journalistiquement, éthiquement, déontologiquement et humainement, c'est profondément déplorable et totalement inexcusable. Les journalistes de France TV qui se sont émus de cette séquence, j'en profite pour vous préciser que France Info TV et France Info Radio, c'est pas la même rédaction. Vous voyez comme cette affaire et ce qu'on a vu juste avant sur Merwan Ben Lazar, comment tout cela résonne ensemble d'une manière absolument dramatique. Hein. On est en train de perdre toute humanité, enfin, c'est tout simplement ça en fait. En fait, il y aurait cette séquence sur CNews, honnêtement, on serait tous vent debout, on serait tous scandalisés, on crierait au projet idéologique défendu, mais là, c'est même pas CNews, c'est le service public, c'est France TV. Toujours moins d'égards pour les Palestiniennes et les Palestiniens, c'est insoutenable. On en est à voir sur le service public des crimes contre l'humanité débattus tranquillement en plateau pour savoir si ça pourrait pas être une bonne solution quand même et si touristiquement ça pourrait pas être sympathique. On en est là. C'est un nouveau fragment de notre humanité qui nous est arraché un petit à petit. On en est là. Bravo France Info, hein, bravo, vraiment super, continuez comme ça les gars. Bien, beau boulot.
Merci Clément Viktorovitch. Maintenant, Agnès Kalama, reçue par Soumaya Benaïssa de Blast, qui s'entretient avec elle sur le dernier rapport d'Amnesty International sur la Palestine et la guerre génocidaire perpétrée à Gaza.
Bonjour Agnès Kalama.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Agnès Kalama, vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International, une ONG donc basée à Londres qui compte des bureaux dans 70 pays. Grande experte des droits humains, vous constatez de rapport en rapport une dégradation constante et accélérée de ces dernières années. Et le droit international, dont vous êtes une ardente et opiniâtre défenseur, avant d'être nommée, d'ailleurs je le précise, secrétaire générale d'Amnesty International, vous étiez rapporteuse spéciale de l'ONU sur sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Le droit international, donc je disais, est selon vos propres termes au bord de l'effondrement. On y reviendra au cours de cet entretien. Mais avant cela, j'aimerais qu'on engage notre échange sur le dernier rapport d'Amnesty International, publié il y a un peu plus d'un mois, qui conclut un génocide en cours dans l'enclave palestinienne de Gaza, intitulé « On a l'impression d'être des sous-humains, le génocide des Palestiniens et Palestiniennes commis par Israël à Gaza ». Nous l'avons déjà évoqué à Blast, mais il nous semblait important de prendre le temps et d'y consacrer du temps aujourd'hui en cette rentrée 2025 avec vous. Alors, il y a 4 ans, dans un communiqué annonçant votre nomination à Amnesty International, vous déclariez « Là où les gouvernements et les entreprises cherchent à faire taire ceux qui dénoncent leurs abus, à dissimuler la vérité et à saper ou rejeter les normes des droits humains, les enquêtes rigoureuses et les campagnes intransigeantes d'Amnesty International sont plus essentielles que jamais. » Cette citation me semble très appropriée et pertinente au vu du contexte dans lequel vous publiez votre rapport très documenté. Un contexte marqué, on l'a beaucoup documenté à Blast, par le verrouillage du débat public et politique sur la guerre et les massacres en cours à Gaza. Un contexte marqué par la délégitimation, le discrédit de toute voix critique, voire par la criminalisation de l'expression de la solidarité palestinienne. Aussi, avant de revenir sur les points les plus saillants de ce rapport, j'aimerais tout simplement peut-être que vous nous disiez un mois après sa publication comment il a été reçu, perçu publiquement, médiatiquement. Est-ce qu'il a été invisibilisé? Est-ce que voilà, comment ça s'est passé?
Écoutez, ce rapport d'Amnesty International a probablement été celui qui, dans toute l'histoire de notre organisation, a reçu le plus d'attention. Que ce soit au niveau des médias traditionnels, au niveau des médias sociaux, au niveau des réactions politiques, je dirais, ou du public. C'est un rapport qui a été, en règle générale, beaucoup mieux reçu que ce à quoi on s'attendait, ce qui démontre bien l'importance qu'il a pris dans le contexte que vous décriviez, c'est-à-dire un contexte de désinformation, un contexte de censure, un contexte où les recherches détaillé et approfondi sur le génocide en cours était difficile à faire, dans la mesure où Israël interdit à tout acteur international d'aller à Gaza, où toute l'information donc arrive de Gaza, mais c'est assez difficile de l'obtenir. Donc dans ce contexte-là, ce rapport, il a été très bien reçu par tous ceux et celles qui souhaitait un rapport fourni, détaillé, bien recherché sur le génocide. Nous n'étions pas les premiers du tout à mettre en avant le génocide et à parler de génocide. Les Palestiniens eux-mêmes l'avaient fait depuis presque un an. Les rapporteurs des Nations Unies l'avaient aussi fait depuis le mois de décembre. Certains experts, certains juristes, certains Israéliens l'avait aussi fait, mais c'était la première fois qu'un rapport d'une telle aussi bien recherché était mis sur était partagé. Donc nous parlons ici de 300 pages recherchées pendant plus de 6 mois qui détaillent bien à la fois les actes génocidaires et l'intention génocidaire d'Israël.
Comme vous le disiez, c'est le 5e rapport d'une entité de défense des droits de l'homme à conclure un génocide à Gaza ou à des actes de génocide. On y reviendra. Est-ce que ce rapport de près de 300 pages, hein, qu'on va un petit peu plus voir dans le détail, accablant, documenté, est-ce qu'on peut le qualifier d'historique?
Ce n'est pas la première fois qu'on qualifiait une situation de génocide, mais c'est la première fois qu'on recherchait une situation et qu'on a conclu qu'il s'agissait d'un génocide. On a déjà parlé de génocide, que ce soit au Rwanda, au Cambodge, à Srebrenica. Donc Amnesty a déjà pris des positions très claires sur l'existence d'un génocide en se basant sur les recherches faites par d'autres. Mais c'est la première fois qu'on faisait nos propres recherches sur un génocide. Donc oui, au niveau d'Amnesty, le rapport est historique, mais je crois que dans le contexte de Gaza, c'est le premier rapport aussi important sur le génocide. Ça sera malheureusement pas le dernier. Bien sûr, l'Afrique du Sud, dans les poursuites judiciaires qu'elle fait contre Israël auprès de la Cour internationale de justice, a construit un dossier beaucoup plus important que le nôtre. Ça ne fait aucun doute. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu accès à ce dossier.
Alors, sur la méthode sur ce rapport, donc vous le disiez, pendant 9 mois, d'octobre 2023 à juillet 2024, une équipe de chercheurs d'Amnesty International a recueilli les témoignages de plus de 200 Gazaouis, aussi bien des victimes des bombardements que des membres des autorités locales, des professionnels de la santé, et on pense particulièrement aujourd'hui au docteur Oussam Abou Safia, directeur du dernier hôpital fonctionnel du nord de Gaza, l'hôpital Kamal Adwan, qui a été capturé par les soldats israéliens le 27 décembre dernier. Donc on a évidemment une pensée pour lui, parce que le corps médical, enfin on en parlera
il
aussi.
Il est le symbole de la résistance, il est le symbole du dévouement de cette classe médicale palestinienne qui se donne corps et âme pour sauver les enfants, les femmes et les hommes palestiniens. Il est aussi le symbole du génocide, parce que le génocide, l'une des dimensions du génocide israélien à Gaza, c'est l'un des actes génocidaires, c'est de créer des conditions de vie qui sont impropres à la vie. Ça, c'est l'une des dynamiques principales du génocide israélien à Gaza. Et pour créer des conditions de vie impropres, on détruit l'eau potable, on détruit les terres arables, on détruit les boulangeries, on rend impossible l'accès humanitaire et on détruit les hôpitaux. Voilà, donc pour moi, ce docteur et tous les autres, d'ailleurs, symbolisent dans une large mesure ce qui se passe à Gaza, à la fois la résistance et le génocide. Donc la destruction qui a été très bien démontrée, pas seulement par nous, mais par d'autres, dont d'ailleurs l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, etc. La destruction délibérée de toute infrastructure médicale, l'impossibilité d'accéder à des médicaments ou un accès qui est très difficile, qui est au compte-gouttes, et les morts qui se rajoutent, je dirais, qui sont pas forcément comptabilisés à l'heure actuelle. Donc on connaît le nombre de victimes des bombardements, mais on ne connaît pas vraiment le nombre de personnes qui meurent en raison de ces conditions de vie.
Vous donnez les chiffres officiels, ceux qui sont communiqués par le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas, et vous rappelez que ce ne sont pas des victimes, enfin que ces chiffres effectivement ne prennent pas en compte les victimes qui sont
ensevelies. Des conditions de vie.
Voilà. Et on a d'ailleurs, on peut ajouter la dernière enquête de scientifique de The Lancet qui vient préciser que ces chiffres sont sous-évalués puisqu'ils les estiment à 61 000 morts.
Voilà. Encore simplement en lien au bombardement, pas en lien avec les conditions de vie.
130 000 blessés, là où on est dans les chiffres officiels, 45 000 morts et 90 000 blessés. Donc vous le disiez, bombardement incessant de zones densément peuplées, destruction de structures hospitalières, coupure permanente d'eau et d'électricité, entrave à la délivrance d'aide humanitaire, multiples déplacements forcés de la population. Toutes ces différentes attaques commises par les forces israéliennes depuis le 7 octobre 2023 ont été scrupuleusement examinées. Vous le précisez, d'emblée, ce n'est pas un rapport politique, c'est vraiment un rapport qui se fonde sur des preuves solides.
Et sur le droit international.
Donc,
en plus des recherches empiriques qui ont été faites sur le terrain grâce à nos consultants et chercheurs à Gaza, c'est-à-dire que nous avons des gens sur Gaza qui ont fait un travail formidable depuis le début de la guerre. Et sans eux, nous n'aurions pas pu obtenir les informations que nous avons pu obtenir sur, en particulier, les bombardements, afin de voir si, oui ou non, il y avait présence objectifs militaires en particulier. Donc, en plus de ces recherches empiriques, nous avons aussi des recherches légales. C'est-à-dire que la jurisprudence sur le génocide commis par un État n'est pas très importante. Il y a eu quelques cas de jurisprudence internationale liée à des responsabilités pénales individuelles, mais très peu liée à une responsabilité étatique. Nous, dans notre rapport, nous focalisons en grande partie, ou en unique partie d'ailleurs, sur la responsabilité des autorités israéliennes, sans forcément attribuer des responsabilités individuelles. Et la jurisprudence sur cette responsabilité étatique n'est pas très développée. Donc il nous a fallu prendre beaucoup de temps et parler avec beaucoup d'experts pour arriver à comprendre comment démontre-t-on qu'il y a génocide, comment démontre-t-on l'intention génocidaire d'un État. De nouveau, parce que la jurisprudence de la Cour pénale, de la Cour internationale de justice, est très limitée. Donc, cette recherche juridique est aussi importante que la recherche empirique.
Et donc, les conclusions du rapport sont très claires. Ce que subissent les Gazaouis correspond à trois actes qualifiant le terme de génocide selon la Convention de 48. Établit le rapport en référence aux dommages physiques ou mentaux graves, au meurtre des membres d'un groupe et aux conditions de vie visant la destruction physique.
C'est-à-dire que l'on a trouvé que Israël a commis trois actes génocidaires, les meurtres, les dommages corporels et, comme vous venez de le dire, les conditions de vie impropres à la vie, en gros. Ça, c'est une partie importante du rapport. Mais je dirais que la partie tout aussi importante, c'est de démontrer l'intention génocidaire. Donc, les actes génocidaires ont été démontrés. Et la deuxième composante du génocide, c'est l'intention. Et c'est ça qui est le plus difficile à démontrer. Particulièrement quand on parle d'un État et pas d'un individu. Comment prouve-t-on l'intention d'un État? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il nous a fallu beaucoup de temps et d'experts, de juristes en droit international pour comprendre comment démontre-t-on l'intention génocidaire d'un État.
Et pour ce faire, pour établir la notion donc de cette intention, l'équipe d'experts d'Amnesty a répertorié 102 déclarations publiques de responsables gouvernementaux, politiques et militaires israéliens qui déshumanisaient les Palestiniens, appelaient à des actes génocidaires ou bien les justifiaient. Et parmi celles-ci, ils ont isolé 22 déclarations de responsables chargés de gérer l'offensive qui semblaient demander ou justifier ces actes. Évidemment, on en a quelques-uns tous en tête. On pense au ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui parle d'animaux humains très très rapidement après les atrocités du 7 octobre. Et bien sûr, Benjamin Netanyahou, qui là vous donne l'exemple du récit biblique de la destruction totale du peuple d'Amalek, tué par vengeance après son attaque contre des Israélites.
Quand on a vu les actes horribles qu'ils ont commis contre nos amis, nos enfants, nos bébés, nos frères, ils sont prêts à éliminer ce mal du monde pour le bien du monde entier, de toute l'humanité. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons.
Cette référence-là, on peut noter qu'elle a été reprise, y compris sur le terrain, par des soldats, par les soldats israéliens.
En effet, donc les discours, les propos tenus par les autorités au plus haut niveau, particulièrement celles qui faisaient partie du cabinet de guerre, sont des éléments incontournables et très clairs, je dirais, de l'intention des individus. Je tiens seulement à signaler que ce n'est pas l'élément unique qui nous permet de démontrer l'intention. C'est-à-dire que l'intention, elle est démontrée de façon holistique. On prend en cause, bien sûr, les déclarations, mais on prend surtout en cause les actes commis sur le terrain. Ces actes-là peuvent-ils être expliqués par autre chose qu'une intention génocidaire? Parce que les propos tenus par certaines personnes ne pourraient ne pas avoir d'impact sur le terrain ou pourraient avoir un impact tout à fait indirect. Cependant, nos recherches nous ont permis de conclure que ce que nous avons vu ce que nous avons, les preuves que nous avons retirées des faits ne peuvent s'expliquer que par l'intention génocidaire. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la destruction de l'ensemble du réseau d'eau potable de Gaza. On aurait pu penser peut-être qu'au début de la guerre, la destruction de certaines infrastructures d'eau potable pouvait s'expliquer par des objectifs militaires. Mais la destruction de tout l'ensemble d'eau potable ne peut s'expliquer que par l'intention d'empêcher l'ensemble des Palestiniens d'avoir accès à l'eau potable. La destruction des terres arables, de l'ensemble des terres arables, qui, avant la guerre, constituaient une source très importante de nutrition pour les Palestiniens, parce que la bande de Gaza était toujours en état de siège. Ces terres arables, une petite destruction, entre guillemets, pourrait s'expliquer militairement, mais quand l'ensemble des terres arables est détruite alors qu'il n'y a plus aucune présence militaire de près ou de loin, ça ne peut plus s'expliquer que par le désir de faire en sorte que rien ne puisse repousser à Gaza. La destruction de l'ensemble des infrastructures médicales. Bon, on pourrait signaler, comme l'a fait les autorités, peut-être qu'en effet, il y avait une présence de Hamas. D'abord, la présence de Hamas n'a jamais vraiment été démontrée de façon indépendante. Deuxièmement, de détruire l'ensemble des infrastructures médicales du pays. Ceci pose question. Nous avons aussi démontré que certaines de ces infrastructures ont été détruites après que Israël, que les autorités, les militaires israéliens aient pris contrôle de ces infrastructures. Là aussi, ça démontre de nouveau l'intention de détruire, de faire en sorte qu'elles soient absolument inopérables pour la population, plutôt que des objectifs militaires. On a étudié de près, enquêté sur des bombardements.
15 frappes.
Voilà. Donc nous, on a simplement mis en avant 15 frappes, mais c'est simplement le haut de l'iceberg. C'est juste ces 15 frappes qui ont tué anéanti des familles entières. Nous parlons de dizaines et de dizaines de personnes d'une même famille. De nouveau, aucun objectif militaire que nous ayons pu identifier. Des bombardements qui ont lieu à des heures où ils sont à même d'avoir le plus grand nombre de victimes et qui utilisent pendant le sommeil et qui utilisent des bombes de grande puissance dans un contexte urbain qui, là aussi, sont à même d'avoir le plus grand nombre de victimes civiles. Donc, ça, ce sont quelques éléments qui ne peuvent pas être expliqués par l'objectif militaire de se débarrasser de Hamas. L'accumulation de ces éléments ne peut amener qu'à une seule conclusion. C'est que même s'il y avait, en effet, un objectif militaire qu'on ne peut pas nier, en plus, en parallèle, ou au sein de cet objectif militaire, il y avait un objectif génocidaire. Et ce que notre rapport met bien en avant, c'est que dans le contexte d'une guerre, il peut y avoir génocide. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas proposer que parce qu'il y a des objectifs militaires, il ne peut pas y avoir d'objectif génocidaire. Ça, pour nous, c'est absolument essentiel de mettre ça en avant. Il y a une guerre, il y a donc des objectifs militaires, il y a l'objectif de se débarrasser de Hamas, on n'a aucun doute là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres objectifs en parallèle, en plus. Et ça,
c'est une conclusion effectivement très importante
de votre rapport,
de la coexistence entre l'objectif militaire et l'intention génocidaire.
Exactement.
Que vous avez constaté. Et juste pour étayer un peu ce que vous dites, je parle sous votre contrôle évidemment en chiffres, ça donne, puisque vous avez un peu listé tout ce qui a pu être constaté sur la période sur laquelle tous vos experts sanitaires ont enquêté, 80% des Gazaouis n'ont pas accès à l'eau potable, 63% des terres agricoles détruites, 80% de la destruction du système de santé a été constatée, 80% des établissements scolaires détruits ou endommagés, des conditions sanitaires effroyables. 85% des écoles donc ne sont plus ne fonctionnent plus, 625 000 élèves privés. Évidemment, on a parlé des tués dont 13 300 enfants, 60% de femmes, de personnes âgées et d'enfants. D'ailleurs, vous recueillez le témoignage d'un homme qui s'appelle Abdelal du quartier de Rafah, qui raconte la frappe, donc qui a endommagé sa maison dans la nuit du 20 avril 2024. Ce témoignage est très important puisque cette frappe donc s'abat pendant la nuit. Toute sa famille meurt sur le coup. Mmh. Il y a là trois générations, un homme de 86 ans, un bébé de trois mois et 16 enfants. Oui. Donc ça raconte, oui. Ça raconte aussi.
C'est un exemple parmi malheureusement des centaines et des centaines d'exemples. Voilà, nous, on a des collègues dont les familles ont été complètement anéanties, détruites au quotidien. Mmh. Au quotidien.
Mmh. Et pour revenir sur cette conclusion de génocide, donc on le disait tout à l'heure, c'est quand même le cinquième rapport d'une entité de défense des droits de l'homme. Il y a le cas de Human Rights Watch, il y a la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires occupés, Francesca Albanese, la Fédération internationale des droits de l'homme, le comité spécial des Nations Unies chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes était déjà parvenu à cette conclusion. Vous le précisez vraiment, déterminer le génocide, vous le mettez en préambule, relève d'une conclusion juridique. Comme vous l'avez bien explicité au début de notre entretien, les experts se consacrent sur le cadre juridique du génocide en droit international. Et pourtant, cette qualification continue de faire polémique.
Oui.
Elle fait l'objet de polémiques. Elle est presque, on va dire, invalidée publiquement, du moins. Elle perce difficilement le mur du son, j'ai envie de dire, médiatique, mais aussi politique. Certains viennent à parler d'un usage, enfin, de tabou. Je ne sais pas comment vous expliquez cela.
Tout d'abord, oui, vous avez absolument raison. Même si il est difficile à l'heure actuelle d'ignorer le génocide des Palestiniens de Gaza par Israël, il est clair que ce n'est pas grâce aux médias traditionnels que cette connaissance est partagée à l'échelle, surtout dans le monde occidental. Donc on assiste, parmi les médias traditionnels, les journaux télévisés, etc., on assiste vraiment à une censure, je dirais, un tabou lié au terme génocide et à son emploi dans le cas d'Israël. Comment cela s'explique? Pour des raisons historiques, pour des raisons géostratégiques, pour des raisons peut-être plus culturelles. Voilà. Donc géostratégique parce que Israël est un allié du monde occidental, en particulier contre l'Iran. Donc, on ne peut pas qualifier un allié de génocidaire. Des raisons historiques, parce que Israël, c'est la patrie de ceux qui ont et celles qui ont été victimes d'un génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a du mal à imaginer, à comprendre qu'ils pourraient eux-mêmes devenir des génocidaires. Des raisons économiques, parce qu'on a énormément d'intérêts économiques en Israël. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ces facteurs, je pense que les termes de génocide et l'emploi, la réalisation, que la connaissance de ce qu'est en train de faire Israël passe très mal auprès des médias. Je dirais qu'elle passe mieux auprès du public lorsque le public a accès aux informations, dont par exemple que vous mettez en ligne. les gens comprennent que c'est pas parce qu'on a été les victimes d'actes génocidaires et d'un génocide qu'on peut pas devenir soi-même des personnes responsables de crimes atroces. D'ailleurs, je pourrais mettre en avant le génocide des Tutsis. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, les autorités Tutsis du Rwanda ou du Burundi ne se livrent pas elles-mêmes à des actes répréhensibles. Il en va de même au Cambodge, où les victimes du génocide peuvent elles-mêmes devenir des personnes qui violent les droits humains ou des entités qui violent les droits humains. Donc, l'idée que parce qu'on a été une victime, que nos descendants ne peuvent pas devenir des personnes qui brutalisent d'autres individus et violent les droits humains, c'est ridicule. Historiquement, c'est ridicule. Malheureusement, on en a la preuve tous les jours. Mais c'est quand même bien présent. Et voilà. Et donc, il faut se battre contre ça. Mais je pense que au-delà de la censure, ce qui est quand même le plus inquiétant, peut-être c'est tout aussi inquiétant, c'est les attaques. Les attaques qui sont faites contre ceux qui osent, osent briser ce mur du silence dont vous parliez, les attaques individuelles contre des journalistes, contre des individus comme Francesca, comme des représentants d'Amnesty International.
Infamante en termes d'antisémitisme.
Voilà, etc. Qualifiant tous ceux qui osent dénoncer le génocide d'antisémites, attaquant les attaquants sur leur probité professionnelle, intellectuelle. Enfin, tout ça, c'est extrêmement effrayant et décevant. Et ça crée ce sont les bases d'un inquiétante, très très inquiétante pour notre futur. Essayer de cacher des massacres et un génocide de cette façon, c'est abominable.
C'est d'autant plus abominable et inquiétant que si on met bout à bout tout ce qui nous parvient de et sur Gaza aussi, bien sûr. Aussi par les personnes qui sont encore à Gaza. Il y a des journalistes qui nous envoient des images, il y a des gens qui filment, il y a vos rapports, il y a tous ces rapports mis bout à bout, les témoignages mis bout à bout, ça offre vraiment une vision apocalyptique de ce qui est en train de se passer.
C'est absolument horrible.
Et de ce point de vue-là, on peut se demander, alors du coup, quel est l'objectif aussi de votre rapport, de ces rapports-là? Qu'est-ce que vous pensez?
Notre objectif premier, c'est toujours de pouvoir mettre un terme au génocide. Donc voilà, ça demeure notre objectif le plus important dans la mesure où il faut que ça s'arrête. Donc que ce soit par le biais d'un cessez-le-feu ou d'un accord sur du long terme, il faut absolument qu'on puisse mettre un terme à l'extermination des Palestiniens de Gaza par les autorités israéliennes. Ça, c'est l'objectif premier. Cet objectif va aussi dans le sens de la libération des otages israéliens, qui demeure bien sûr un sujet important. Donc voilà, pour nous, c'est l'objectif premier. C'est aussi de faire en sorte que les États qui continuent d'apporter leur soutien à Israël comprennent bien, même si je pense qu'ils l'avaient déjà compris, mais comprennent bien qu'ils prennent le risque d'être complices d'un génocide. C'est certainement le cas des États-Unis qui n'arrêtent pas de vendre des armes à Israël depuis le début.
Donc, très récemment, une annonce de 8,7 milliards de dollars d'aide. Pour soutenir les efforts militaires, oui.
Voilà. Donc, un État comme un pays comme les États-Unis sont sont très proches, très près de devenir complices de génocide. L'Allemagne, l'Autriche, mais aussi bien sûr la Grande-Bretagne ou la France. Parce que même si on ne vend plus, même si la France ne vend plus d'armes en assemblée, je dirais, elle continue quand même de fournir des parties, des armes soi-disant défensives. Donc on continue quand même d'alimenter la course à l'armement et l'hégémonie militaire d'Israël sur Gaza, qui ne fait absolument aucun doute. Donc les complicités, les risques de complicité sont très importants. Donc pour nous, c'était aussi ce rapport, c'est aussi une façon de permettre aux populations de ces pays-là d'avoir les éléments qui leur permettraient de demander un arrêt de ces exportations, de cette coopération militaire et donc de cette complicité et diplomatique.
Et diplomatique, comme on l'a vu dans le cas de la position de la France concernant les mandats d'arrêt de la CPI.
Oui.
Comment vous l'avez reçu
C'était tellement ridicule. Je ne sais pas si le président de la République a pris vraiment la mesure de ce qu'il disait, a mis à mal quand même les juristes et les diplomates français. Bon, c'est une
position. C'est pas la première fois.
Donc ça sera pas la première fois. Donc c'est pour ça qu'il est possible que ce soit une de ses initiatives à lui, plutôt que quelque chose de bien pensé. Bon, ceci étant, il avait tort. Il avait tort au niveau politique, il avait tort au niveau diplomatique et il avait certainement tort au niveau légal. Donc, Monsieur Netanyahou n'a aucune immunité qui puisse s'attacher à lui. Et ça a bien été démontré par la jurisprudence. Il n'est pas Monsieur Macron n'était pas le seul à proposer une telle immunité. Plus récemment, en effet, c'est la Pologne qui est rentrée dans cette discussion-là. Écoutez, moi, je pense que Monsieur Netanyahou est une personne recherchée.
C'est une avancée de ce point de vue-là.
Oui, c'est une avancée extrêmement importante. Je tiens à saluer la Cour pénale internationale et le procureur et les juges qui ont émis ces mandats d'arrêt
et qui ont été menacés si l'on en croit l'enquête du Guardian.
Voilà, qui ont été menacés et qui sont menacés par les États-Unis d'ailleurs, puisque il y a une loi en discussion voilà. Donc
oui,
c'est un homme recherché. Monsieur Netanyahou et son ancien ministre de la Défense sont des personnes recherchées. Je pense que les territoires où ils pourront trouver, où ils pourront aller, sont extrêmement limités. À part, je dirais, les États-Unis, je ne vois pas vraiment où il pourra aller ailleurs que là-bas, peut-être. Enfin, c'est très limité, quoi. Peut-être en Argentine, mais ça sera tout. Donc, voilà. Donc, à part un ou deux pays qui vont probablement essayer de le protéger, Monsieur Netanyahou va devoir rester en Israël pour jusqu'à ce que justice soit rendue, je dirais. Donc, quand même, c'est des prises de position importantes. Le gouvernement, l'administration américaine essaye de s'y opposer en menaçant la Cour pénale internationale
oui,
des individus.
Vous faisiez mention d'une loi. Vous pouvez nous dire un mot qui est en discussion en ce moment
oui,
aux États-Unis.
Oui, oui, oui. Il y a une.
C'est important d'en parler.
Oui, oui. Il y a une loi qui est en discussion aux États-Unis qui permettrait aux autorités américaines d'interdire, d'arrêter, de créer d'énormes difficultés pour tous les individus associés à la Cour pénale internationale, en commençant par le procureur et,
Karim Khan, ouais.
et les juges. Donc voilà, nous, à l'heure actuelle, nous nous mettons, nous sommes dans une coalition pour la Cour pénale internationale qui cherche à convaincre le Sénat américain de ne pas aller dans la direction de cette loi, de reconnaître quand même qu'il y a des intérêts qui prédominent. Mais on ne se fait pas trop... Enfin, personnellement, je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense que les États-Unis, particulièrement sous Donald Trump, mais pas seulement, hein, même avec Biden. Joe Biden, sont prêts à tout pour défendre Israël, et ça comprend s'attaquer à la Cour pénale internationale, d'autant plus que de toute façon les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Donc pour eux c'est un détail, je dirais.
Sont prêts à tout pour défendre Netanyahou.
Je pense plus ou moins oui, on va voir jusqu'où Donald Trump va aller. Pour défendre Netanyahou, c'est une vision géostratégique, dans la mesure où Israël à l'heure actuelle est la superpuissance au niveau du Moyen-Orient qui s'oppose à l'Iran. Et qui, franchement, est en train de repousser l'Iran dans un rôle beaucoup plus réduit que celui auquel l'Iran s'était donné ou avait imaginé. Donc, géostratégiquement parlant, les États-Unis voient dans Israël l'État qui leur permet de refonder le bastion occidental américain en particulier, je dirais, hein, de refonder les relations internationales au niveau de cette région, l'accès à toutes les ressources très importantes de cette région. Donc voilà, à ce niveau-là, Israël est un allié extrêmement important. Jusqu'où ira Donald Trump pour les protéger, je sais pas, parce qu'il est quand même, il y a quand même des alliances avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Unis qui ne sont pas à négliger. Et jusqu'à présent,
qui était en voie de normalisation.
Voilà,
en tout cas,
et qui quand même à l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite sous Mohammed Ben Salman semble dire qu'il n'y aura pas de normalisation tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Donc ça va être intéressant, je dirais, de voir comment Donald Trump va gérer ces tensions. Mais bon, au-delà de cet intérêt, je dirais la chose la plus importante, c'est de protéger les Palestiniens de Gaza. Mmh. Donc eux, ils n'ont pas de temps. On n'a pas le temps d'attendre que Donald Trump réalise que Israël, les intérêts d'Israël ne correspondent pas forcément avec ceux des États-Unis et que on ne fonde pas un nouveau système international sur un génocide. On le fonde contre un génocide, pas sur un génocide. Donc, ce qui s'instaure, je dirais, à l'heure actuelle, c'est une grande période d'insécurité, d'instabilité. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que l'on puisse fonder un nouvel ordre global, un nouvel ordre mondial, sur des bases génocidaire, sur des bases extrêmement racistes, sur des bases de supériorité raciale, ethnique, etc. Ça ne peut pas être la colle qui va permettre à ce système de
se stabiliser. Sauf à mettre en place un ordre qui reposerait plus sur la force que sur le droit.
Mais ça, de toute façon, il y a toujours, c'est toujours comme ça. Mais même si c'est un ordre qui repose que sur la force, ça ne peut pas perdurer au-delà d'une dizaine d'années, je dirais, sans avoir de conflits mondiaux. C'est, en tout cas, c'est ce que l'histoire nous a démontré.
Alors, vous parliez précisément de valeurs, antivaleurs, et c'est vrai qu'à Blast, on a consacré beaucoup de documentaires, d'entretiens, de chroniques. Enfin, on essaye d'essayer de décrypter, d'essayer de comprendre un peu ce moment de paradoxe, hein, démocratique que vous êtes oui. aussi un peu en train de dessiner, qui repose sur cette idée que des puissances qui se disent démocratiques sont capables de soutenir l'écrasement de Gaza, de soutenir des massacres en cours. Un génocide. On a beaucoup essayé de comprendre ça. Et il y a cette phrase que je rappelle souvent de Didier Fassin qui dit que le consentement à l'écrasement de Gaza a créé une immense béance dans l'ordre moral du monde. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'il va être très difficile pour les pays occidentaux de recouvrir l'humanisme dont ils se targuent. Comment est-ce que vous-même, vous parlez d'échec moral, vous parlez de honte.
Oui,
voilà,
oui,
très
mais je vais au-delà de l'échec occidental. Je suis désolée, les États du Moyen-Orient ne font rien. Soyons très clairs, ne font absolument rien pour protéger les Palestiniens de Gaza. C'est pas nouveau et c'est toujours à l'heure actuelle. Qu'est-ce que fait l'Arabie Saoudite à part de dire trois choses de temps en temps? Qu'est-ce que fait la Jordanie? Qu'est-ce que fait les États, les Émirats Unis? Ils ne font rien. Qu'est-ce que fait le Pakistan? Qu'est-ce que fait l'Indonésie? Non, soyons très clairs, c'est l'échec moral à l'échelle planétaire, pas du peuple. Les peuples, même que ce soit en Occident ou dans les pays arabes, dans la mesure où ils ont la possibilité de protester, tout le monde s'érige contre cette complicité, mais au niveau des États, ils font pas grand chose quand même.
Au niveau des États, vous-même dans un des rapports, alors pas celui-là, je crois que c'est le précédent, il y a cette idée, vous recueillez pour des millions de personnes, Gaza symbolise l'échec moral total, y compris de ceux qui ont fondé ce fameux ordre
donc
international.
Pour moi, c'est
de ce point de vue-là.
Voilà, de ce point de vue-là, ça le fait. C'est-à-dire que
les
ceux
fondateurs,
qui ont...
des architectes voilà. de cet ordre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Les architectes de ce monde, ah oui, là, ils sont en train de le détruire. Maintenant, ils le détruisent, en tout cas les États-Unis le
avec
détruisent.
Avec la complicité, évidemment, de l'ensemble.
Ils le détruisent en connaissance de cause. C'est-à-dire que pour les États-Unis, il s'agit maintenant d'un ordre mondial qui ne sert plus leurs intérêts. Donc, il faut le remplacer. C'est la même chose avec la Russie. L'attaque et l'agression contre l'Ukraine fait aussi partie de la même dynamique. Il s'agit d'un ordre mondial qui ne leur convient plus. Donc, il faut le refonder. L'agression contre l'Ukraine signale de façon très claire que la Russie n'est pas d'accord avec les règles du jeu. Les États-Unis ont continué dans cette direction et le font de façon très claire avec Gaza. La Chine cherche à s'accommoder des règles tout en elle aussi contrôlant essayant de les contrôler. Donc oui, les architectes du système de Bretton Woods et du système de 1948 sont maintenant prêtes à le détruire pour en recréer un qui servira mieux leurs intérêts. Ils le font en connaissance de cause, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que la Russie et les États-Unis détruisent les Nations Unies et l'ordre mondial, le droit international et les règles fondées sur la Charte des Nations Unies en connaissance de cause. Ça ne fait aucun doute. Ont-ils autre chose, proposent-ils autre chose pour le remplacer? Non. Ce qu'ils proposent à l'heure actuelle, c'est une ère d'instabilité et d'insécurité au cours de laquelle ils vont chercher à recréer un système qui sera beaucoup plus à même de servir leurs intérêts. Donc tout ça, ça va être extrêmement destructeur, je dirais, parce que ce n'est pas que l'espace géostratégique, nous parlons de l'espace économique, nous parlons de l'intelligence artificielle, nous parlons de big tech, des grandes compagnies technologiques, nous parlons de la colonisation du fond des mers, de la colonisation de l'espace. Donc s'ouvre une ère entre guillemets, peut-être d'innovation, mais plutôt, pour moi, à la fois d'instabilité, d'insécurité, de violence à l'échelle planétaire, où la force des armes va dominer.
Merci à Blast, chaîne YouTube hyper informée, et merci à Agnès Calamard. Au revoir et à bientôt sur Radio Galère.
Binti Chalabi.